pour commencer, en fait, je vais vous soumettre au pire des travers des médias qu'on critique en général. Vous avez écrit un bouquin avec Dominique Vidal qui s'appelle L'opinion, ça se travaille. Est-ce que vous pourriez me le résumer en 2 minutes?
C'est 2 minutes uniquement, hein.
Oh,
Oui,
ou
bon.
cinq.
L'objectif, ça a été de revenir sur un événement politique qui avait été très médiatisé et qui a une certaine importance, puisqu'il s'agissait d'une guerre à laquelle nos pays dont ils avaient été partie prenante. Et en revenant sur cet événement, d'essayer de voir comment l'information avait opéré, au service de qui, quels étaient les éléments de la réalité qu'elle avait occultée, quels étaient les éléments de la réalité qu'elle avait exagérée. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'avec la guerre du Kosovo, nous avions vécu l'une des grandes opérations de désinformation de ce siècle.
Oui, effectivement, c'était en tout cas pas la première. Vous l'avez d'ailleurs souligné durant votre exposé ce soir. Au moment de la guerre du Golfe, il y avait déjà eu le choc de Tim Sauer 200 avant, mais au moment de la guerre du Golfe, bon, l'information était celle qu'on a vue. Mais après, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une grande autocritique, disons, qui suivait peut-être une critique extérieure de la part des médias. Et ils se sont dit plus jamais ça, la prochaine fois on fera gaffe, etc. Ce dont on s'est aperçu, et notamment grâce à votre livre Au Kosovo, il s'est passé exactement la même chose, voire pire, sauf que cette fois-ci, c'était une auto-célébration. Comme vous l'avez dit, il disait, tout en manipulant l'information, consciemment ou inconsciemment, il disait, on fait ça d'une manière formidable, l'information est parfaite. Est-ce que vous pensez que là, pour toutes les prochaines guerres, on est parti sur cette lancée-là, c'est-à-dire il y a eu une fois la critique, elle a été évacuée, à partir de maintenant, la critique n'est plus possible?
La vérité, c'est que vous ne pouvez pas trop jouer à désinformer et puis après à reconnaître après que vous avez désinformé. Votre crédit risque d'être très sévèrement érodé. Or, la plupart des journalistes dominants savent depuis le milieu des années 90 que l'opinion ne fait plus confiance aux journalistes spontanément. Et donc, les critiques qui étaient encore légitimes dans la période enchantée des rapports entre l'opinion et les journalistes, qui en quelque sorte validaient les journalistes, leur donnaient une espèce d'aura de courage supplémentaire, ne sont plus recevables parce qu'elles deviennent beaucoup trop risquées à partir du milieu des années 90, où on se dit que ce serait peut-être l'erreur de trop, l'erreur dont on ne réchappe pas. Donc il est très très important, au moment où vous désinformez, dans la mesure où vous savez très très bien que les gens qui sont informés soupçonnent les journalistes de mal faire leur travail, il est très important de leur dire, on vous donne l'information, mais en plus, on va vous expliquer que notre travail est exemplaire. On sait que vous doutez de ce qu'on fait, donc on va en permanence essayer de vous convaincre, pas de manière implicite, mais de manière explicite, que notre travail est extraordinaire, en nous interrogeant les uns les autres pour commenter l'excellence de notre travail. Et évidemment, comme ça s'est passé au moment de la guerre du Kosovo, c'est le type de démarche à partir de laquelle on imagine mal une marche arrière. Une fois que vous avez dit notre information est exemplaire, 3 mois plus tard, vous ne pouvez pas dire, ah au fait, là, comme au moment de Timișoara, comme au moment de la guerre du Golfe, etc., on a été mauvais. D'autant que ceux qui ont vanté l'excellence de leurs informations, Edoui Plenel dans Le Monde, Laurent Geoffrin dans Le Nouvel Observateur, Claude Sérillon dans France 2, Patrick Poivre d'Arvor en TF1, sont des responsables de l'information en France. Je ne sais pas si ça s'est passé de la même manière en Belgique, mais ce sont des responsables, ce sont des chefs de l'information, qui se sont donc discrédités en vantant la qualité d'un produit vérolé. À partir du moment où ce discrédit est né ou pourrait naître, le meilleur moyen de se prémunir contre le risque qui s'étende, c'est d'étouffer l'information sur la réalité de la désinformation. Donc on parle d'autre chose. Et après tout, avec les médias, on peut toujours changer de sujet d'actualité. Vous parlez de la guerre du Kosovo, là maintenant on n'en parle plus, la Macédoine n'intéresse guère, et tantôt on avait Lady Diana, tantôt on a Love Story, tantôt on a ces sujets de diversion qui permettent de ne pas évoquer des thèmes qui pourraient être trop détonnants pour les journalistes.
Mais tout ça se passe à une époque où on voit de plus en plus, presque comme une mode, des médiateurs. Il y en a sur France 2, dans le monde, un peu partout. Même la Belgique commence à être touchée. Il y en a un au soir, il y en aura bientôt un à l'RTBF. Est-ce qu'il faut dire pourtant ou est-ce qu'il faut dire d'ailleurs? Est-ce que cette mode des médiateurs participe de tout ça?
Cette mode des médiateurs, c'est déjà une réponse aux soupçons. On essaie de répondre aux soupçons des lecteurs en leur disant, voyez, l'information fait aussi la critique de l'information. On est à la fois l'information et sa critique, et tout se passe chez nous. On contrôle en quelque sorte tous les termes du débat. On va dire, mais on pourrait critiquer le monde. Non, c'est pas la peine. Le médiateur s'en charge. Mais on pourrait critiquer RTBF. Mais non, mais le médiateur s'en charge. Même chose pour France 2. Et le travail du médiateur, c'est très souvent de présenter la qualité de réflexivité des médias. On est capable de réfléchir à notre travail et de le corriger. Le médiateur entretient donc la croyance dans l'excellence du journalisme. L'excellence du journalisme est telle qu'il accepte lui-même de se remettre en cause. Mais naturellement, dans le cas de ces médiateurs, c'est une remise en cause qui est très limitée parce qu'il reste des salariés de l'entreprise qui ne peuvent pas formuler de trop grandes critiques contre l'entreprise, parce que très souvent, d'ailleurs, une fois qu'ils cessent d'être médiateurs, ils retournent dans l'entreprise. Et vous imaginez bien que si vous avez critiqué de manière féroce le directeur de la publication ou le rédacteur en chef ou je ne sais quel chef de service, et que vous vous retrouvez après dans ce service, votre vie est assez difficile. Au moins aux États-Unis, lorsqu'il s'agit des médiateurs, il y a tout de même la pratique qui consiste à les faire venir de l'extérieur, et une fois que leur mandat est terminé, de leur dire, vous retournez à l'extérieur. Donc il n'y a aucune nécessité pour le médiateur de ménager en quelque sorte ses arrières. Mais encore une fois, ce qui me paraît très important dans le phénomène du médiateur, c'est que son rôle principal, c'est d'entretenir la croyance dans l'excellence de l'information et le monopole de l'information, surtout, y compris sa critique.
Mais comment expliquer malgré tout, avec en arrière-plan l'expérience de Tim Issoharad, la guerre du Golfe et le fait qu'on sait quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont pas des imbéciles malgré tout, que non seulement la contre-information ne soit pas du tout passée et la critique après coup ne soit pas du tout passée non plus, mais en plus que certaines personnes qui sont censées figurer parmi les plus progressives du monde intellectuel et médiatique, ce soit laisser prendre, disons, comme des débutants à toute cette propagande. Et je pense en particulier à Philippe Val, que j'avais eu l'occasion d'interviewer là-dessus aussi dans le cadre de cette émission. Comment expliquer que la redoutabilité, disons, de l'efficacité de cette propagande?
Écoutez, moi je ne peux pas répondre pour Philippe Val, d'autant qu'on a eu une polémique publique, lui et moi. On partageait un certain nombre de positions, et il est évident que les articles qu'il a écrits au moment de la guerre du Kosovo m'ont semblé tout à fait irrecevables.
Mais donc vous aussi, vous avez du mal à le comprendre, quand même au départ, en tout cas.
Oui, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'il ait fait cette erreur. À vrai dire, je peux comprendre qu'il ait fait l'erreur en avril, en mai 99, parce que l'effet de propagande était tel qu'il fallait avoir la tête particulièrement froide et qu'il a parfois la tendance à vouloir moraliser tous les événements de la réalité internationale, et que quand il s'agit d'une guerre, moraliser n'est peut-être pas la meilleure manière d'approcher les rapports de force et les motivations des protagonistes. Ce que je comprends beaucoup moins bien, c'est que 2 ans plus tard, il n'y ait pas eu du tout de sa part de réflexivité. Il aurait pu reconnaître, bon, on s'est trompé là-dessus, on s'est trompé là-dessus. Or, au contraire, c'est en quelque sorte le je persiste et je signe. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme pour les autres, il y a eu une espèce de soupçon sur ces informations auxquelles ils ont tous répondu en vantant l'excellence de l'information. Philippe Val, dans le bouquin qu'on a fait avec Dominique Vidal, on cite même un extrait d'un de ses éditoriaux où il dit que l'information de l'OTAN est de qualité, que cette fois-ci, il n'y a pas de manipulation. Alors, quand vous vous êtes engagé à ce point, il est très difficile de vous dégager beaucoup. Le meilleur moyen de se dégager beaucoup, c'est de parler, encore une fois, d'autre chose.
Mais comment expliquer aussi qu'avec des journalistes qui sont certainement pas tous malhonnêtes, et en particulier dans le bas des structures, disons, comment expliquer que tout le monde marche dedans, alors que certains journalistes doivent tout de même s'apercevoir, étant au milieu de tout ce qui se passe, que ce qui sort finalement de la télé ou de la radio, c'est du mensonge. Comment expliquer qu'il n'y a pas un grain de sable dans cette belle mécanique finalement?
D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'ils ne sont pas malhonnêtes. Pas du tout parce que j'ai l'intention de mesurer mes propos, mais parce que je pense que ce serait une mauvaise explication. Je pense que sincèrement, ils font le travail qu'ils estiment devoir faire. Parfois, ils souffrent quand ils mesurent que ce travail ne correspond pas à ce qu'étaient leurs aspirations lorsqu'ils sont rentrés, pour certains, dans des écoles de journalisme. Mais ils ont l'impression qu'ils font ce qu'ils doivent faire et ils le font avec la plus grande sincérité. J'ajoute que leur sincérité est absolument indispensable au système. Pour qu'ils soient de bons diffuseurs de l'idéologie dominante, il faut qu'ils le fassent avec tout leur corps, avec toute leur âme, avec toute leur confiance, avec tout leur enthousiasme. Et on n'obtiendrait pas ce corps, cette âme, cette confiance, cet enthousiasme si les journalistes n'étaient pas sincèrement convaincus qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Alors pourquoi le font-ils? Si j'ai avancé une explication qui est que maintenant la profession est construite de telle manière qu'il n'y a aucune sanction lorsque vous vous trompez avec tous les autres et qu'il y a un risque de sanction terrible si vous vous trompez seul. Et que comme vous ne voulez pas vous tromper seul, vous n'avez pas non plus tendance à prendre le risque d'avoir raison seul. Parce que vous pourriez ne pas avoir raison et donc vous êtes trompé seul. Donc vous vous trompez avec tous les autres. Lorsque tout le monde se trompe, si personne après ne révèle la tromperie collective, eh bien l'erreur collective passera beaucoup plus facilement. Et je crois que ça, c'est un phénomène qui joue. L'autre phénomène qui joue, c'est ce qu'évoque Marc Ayrault lorsqu'il analyse le traitement médiatique de la guerre du Kosovo, c'est qu'il y a de moins en moins de spécialistes dans les rédactions des conflits. Or, la guerre du Kosovo, ça ne se traite pas comme une question morale. En montrant des femmes et des enfants qui pleurent et en disant, regardez les femmes et les enfants qui pleurent, c'est triste. Évidemment, c'est triste. Et ça, c'est le type de traitement auquel on a été soumis, qui n'exige aucune connaissance du conflit, qui n'exige même pas de parler la langue. Il suffit de venir avec un interprète qui vous traduit des récits d'épouvante. Or, comme dans les rédactions, la plupart des spécialistes ont disparu, on estime que ça coûte trop cher, que ça n'intéresse pas, la politique internationale est très largement sacrifiée. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, les Unes du Monde, qui presque maintenant systématiquement privilégient des sujets de politique intérieure. Lorsque vous n'avez pas de spécialiste, le meilleur moyen que vous avez de traiter d'un conflit international, c'est de le présenter comme une fable morale, avec le bon et avec les méchants. Et ça, c'est de plus en plus le mode de traitement habituel, du journalisme. Lorsque vous traitez de la guerre du Kosovo, c'est vrai que la situation des Balkans est épouvantablement compliquée, elle exigerait une connaissance historique qui réclamerait des années de travail. Eh bien, lorsque vous débarquez du jour au lendemain au Kosovo, pays que vous n'avez pas traité pendant des années parce que vous estimiez que ça n'intéressait personne, et que vous estimez que maintenant il intéresse tout le monde dès lors que votre armée va au Kosovo, quel est le moyen que vous avez de faire un traitement qui ne soit pas un traitement uniquement émotif, uniquement émotionnel, en se référant aux informations officielles, qui sont d'ailleurs calibrées pour être absorbées par les journalistes et répercutées par eux?
Pour conclure sur cet aspect-là des choses, moi, ce qui m'a surtout frappé dans votre livre, mais encore ce soir, j'ai appris des choses que je ne savais pas, c'est que, disons, les aveux de la manipulation sont totalement disponibles. Il suffit de regarder le titre de votre bouquin, qui est L'opinion, ça se travaille. Ça vient d'un général américain, me semble-t-il, un général de l'OTAN. Il y a certaines citations de Jamie Shea qui sont assez frappantes aussi. Et il y a même le spin doctor en chef, donc comment dire, le marketeur, le publicitaire en chef de la Maison Blanche, James Rubin, qui avouait dans son livre effectivement que c'était une question de bataille des médias et pas beaucoup plus que ça. Mais c'est quand même incroyable, non, que les aveux soient là et que tout le monde médiatique décide de n'y voir que du feu.
Alors là, il faut peut-être que je relativise ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que quand on dit tout le monde médiatique, il s'agit du cas français, peut-être du cas belge. Mais il faut reconnaître qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont admis des erreurs commises par leurs propres journaux, par les propres journaux des journalistes qui révélaient ces erreurs. Ainsi, par exemple, l'histoire des charniers, etc., qui avaient été brûlés à Trepka. Bon, ça avait été une affaire dont on avait beaucoup parlé. Et c'est le Wall Street Journal lui-même qui, dans un article de une, a rendu compte d'une enquête qu'il avait accomplie à Trepka quelques mois plus tard, révélant que toutes ces histoires-là étaient des bobards. Vous avez donc des journalistes qui l'ont fait. Il s'est passé la même chose pour El País. Il s'est passé la même chose pour des journaux australiens. Il s'est passé la même chose pour Newsweek, qui a révélé que la précision des frappes de l'OTAN n'était pas aussi extraordinaire qu'on le disait, et que la plupart des bombes avaient atteint d'autres objectifs que ceux qu'elles visaient. Tout ça, on l'a lu quand même dans certains titres de la presse occidentale, à tel point d'ailleurs que notre livre est très largement nourri par ces révélations qui ont été publiées, par El País, qui par le Wall Street Journal, qui par Newsweek et qui par d'autres quotidiens de ce type. Le problème de la France, c'est que ces informations-là, d'une part, n'ont pas été révélées par des journalistes français, à l'exception dans certains cas du Figaro, et d'autre part que lorsqu'elles ont été révélées, elles ont été très largement occultées ou présentées de telle manière qu'elles semblaient n'être que l'une des facettes d'une polémique. Alors même qu'il n'y avait plus de polémique, que la polémique était réglée, qu'on savait par exemple, qu'on sait très certainement que le plan fer à cheval est un faux. Bon, ce plan fer à cheval a été présenté en une du Monde comme une réalité et indiqué à l'indicatif. On disait le plan fer à cheval qui estime que ou prévoyait que. C'est pas qui aurait prévu que. On a supprimé le conditionnel. Encore que le conditionnel est maintenant un moyen qu'utilisent les journalistes pour conditionner sans risque. C'est le conditionnel qui conditionne. Après, on explique, mais comme on a employé le conditionnel, on pouvait dire n'importe quoi. On n'a pas annoncé que l'information était réelle. Mais dans le cas du plan fer à cheval, on a employé l'indicatif. Il n'y a pas eu après d'information disant, au fait, ce plan fer à cheval n'a pas existé. Tout ça a été présenté comme une polémique. Et ça, c'est encore une fois une spécificité française qu'on n'a pas retrouvée dans le reste de la presse occidentale, en tout cas pas dans tous les autres, pas dans tous les autres pays, et qui me paraît particulièrement préoccupante.
Mais c'est une chose qui m'a frappé aussi dans votre discours de ce soir, c'est un peu comme on a dit souvent en France, on a la droite la plus bête du monde, c'est un peu on a la presse la plus mauvaise du monde, et c'est peut-être un peu comme ça en Belgique, mais ailleurs c'est pas tellement le cas. Moi ce que je remarque quand même, c'est qu'aux États-Unis il existe une tradition de critique des médias qui est très saine, mais qui n'est pas sans fondement, c'est qu'il y a des médias à critiquer. Toutes les théories qu'a élaborées Noam Chomsky, que vous avez cité aussi ce soir, c'est pas sur du vent, c'est par rapport à une situation concrète et qui est effectivement, quand on lit des sites de critiques médias aux États-Unis, la situation est effectivement parfois dramatique. D'abord, est-ce que vous pensez vraiment que la France a la presse la plus mauvaise du monde? Et deuxièmement, j'ai oublié le deuxièmement, mais c'est pas grave.
Non, je ne dis pas qu'elle est la plus mauvaise du monde, surtout quand on pense à la presse britannique, à la diffusion extraordinaire des tabloïds et des choses de ce genre-là. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Mais je pense que c'est l'une des presses qui est les moins capables de faire son autocritique. Et probablement parce que le milieu journalistique est extrêmement petit, centralisé, incestueux et en rapport très étroit avec les responsables politiques et économiques. Et un rapport non seulement étroit, mais acritique avec les responsables économiques en tout cas. Et je crois que ça, c'est une caractéristique française. D'autre part, dans le journalisme français, il y a aussi la très grande place qu'occupent les éditorialistes, ceux qui font des commentaires. Et très souvent, le correspondant n'est envoyé que pour confirmer l'intuition de l'éditorialiste ou de l'auteur du commentaire. À tel point que vous vous souvenez au moment de Timmy Sohara, il y avait un journaliste de Libération qui était sur place et qui disait: Mais moi, j'ai pas vu les cadavres, tu dis qu'il y en a 500 ou 1000 ou 2000, moi, j'ai rien vu de tel, donc je ne voudrais pas qu'il y ait ça dans mon article. Et c'est le rédacteur en chef qui dit: Écoute, toi, tu l'as peut-être pas vu, mais moi, j'ai vu ça à la télévision, et qui a inscrit dans l'article, sous la signature du correspondant, une information que le correspondant ne voulait pas communiquer. Ce type de rapport est plus difficilement imaginable aux États-Unis. Quant à dire que l'information américaine est parfaite, naturellement, très loin de moi cette idée. Et je veux dire, il m'est même arrivé d'écrire un certain nombre d'articles et d'analyses de la presse américaine, donc je suis tout à fait conscient de ses déficiences. Mais il y a au moins cette capacité d'informer sur l'information qu'on ne retrouve pas dans la presse française. J'en veux un exemple, par exemple, assez récent. Lorsqu'il y a une fusion industrielle qui concerne un journal, en l'occurrence le Washington Post, eh bien c'est dans le Washington Post qu'un journaliste a fait état des dangers que cette fusion faisait peser sur l'information dans son journal et qui a interrogé des journalistes qui faisaient part de leur crainte, de leur inquiétude. Vous ne trouverez jamais ça dans la presse française lorsque Le Monde conclut une alliance avec Hachette ou avec Vivendi ou lorsque Libération est rachetée par Sedoux puis vendue, etc. Vous avez en général très peu d'articles qui interrogent des journalistes de la rédaction qui font part de leur inquiétude sur la qualité de l'information. Et ça, à mon avis, c'est une déficience assez grave qui nous oblige, nous, à être d'autant plus vigilants pour informer sur l'information que nous savons que nous serons très peu nombreux à le faire.
Pour en revenir au Kosovo et à toute la polémique qu'il y a eu autour, on a remarqué très souvent que dès qu'on, et vous le rappeliez ce soir aussi, que dès qu'on osait mettre en doute la propagande dominante, on se faisait traiter de proserbe, de suppôt de Milosevic et de plein de choses comme ça. C'est un truc qui arrive très fréquemment chez nous aussi. Par exemple, il y a eu un débat entre Anne Morelli et Paul Germain de la RTBF, et Paul Germain disait, elle a des arguments, mais je la trouve quand même un peu pro-Milosevic. Ça se vérifie plus ou moins à chaque fois. Comment éviter ce piège qui est presque un piège sémantique au fond, mais qui est systématiquement posé?
Bah, je crois que l'éviter requiert simplement de rappeler les précédents de régimes qui procédaient de cette manière, les dictatures communistes, le maccartisme. Le maccartisme, c'était quoi? C'était la mise en place d'une commission des activités un-américaine. Et pourquoi? C'est parce que les opposants au régime politique américain ne pouvaient être que non américains dans la mesure où l'américanité, c'était la défense de l'ordre social existant. Bon, on sait à quoi cette logique a conduit, à pourchasser les créateurs, à en mettre certains en prison. Je ne suis pas sûr que l'urgence soit pour nous d'imiter de telles pratiques, même si elles s'accompagnent de moins de risques pour les dissidents.
Pour terminer, une question que j'ai eu l'occasion de poser à plusieurs des personnes que j'interviewais dans cette émission et qui s'occupent de critiques médias et de choses comme ça. Comment s'informer sans être occupé à le faire 24 heures sur 24? Comment s'informer correctement sans y passer sa vie?
C'est une question tout à fait fondamentale, vous la posez à la fin, mais effectivement, on ne peut pas attendre des gens à qui on parle qu'ils passent leur vie à s'informer. On ne peut pas leur dire, vous n'avez qu'à lire la presse anglaise, la presse balte, écouter la radio albanaise. Les gens ont des vies à mener, leur vie n'est pas déterminée par l'information en Yougoslavie. Et je crois que les journalistes et les dominants jouent précisément de cette disponibilité très limitée que la plupart d'entre nous ont et qui les fait accepter assez facilement une information prédigérée qu'ils peuvent absorber en un quart d'heure, en une demi-heure, parce qu'il ne faut pas leur en vouloir, ils ont d'autres soucis, d'autres tâches à mener dans la vie, et c'est en quelque sorte notre travail de journaliste, parce que c'est notre travail de faire cette information, d'essayer de la communiquer aux gens qui nous lisent et qui nous écoutent, mais sans attendre d'eux qu'ils soient en quelque sorte des héros permanents qui vont aller chercher sur les sites internet toute l'information qui pourrait circuler dans le monde, qu'ils soient en mesure spontanément de la mettre en contexte, qu'ils connaissent tout de l'histoire, de l'économie, de la sociologie. Et il est exact que lorsque nous répondons aux gens, vous n'avez qu'à faire le travail de vous informer, c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante, même si c'est un travail qu'on leur demande, mais on ne peut pas trop leur en demander, et on sait que pour eux, ça n'est pas forcément une priorité, qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire, que s'informer fatigue, et c'est encore une fois notre travail de les aider.
Oui, mais en substance, votre réponse, c'est notre travail. Le problème, c'est que dans le contexte actuel des médias dominants, c'est le travail des journalistes, mais on constate qu'ils ne le font pas. Alors, comment accéder à une information correcte qui serait prédigérée par des gens qui le font bien?
Alors d'abord, l'information, ce n'est pas uniquement les journaux, ce n'est pas uniquement la radio ou la télévision. L'information, c'est aussi l'existence sociale. Vous savez ce qui se passe dans votre pays parce que vous êtes salarié dans une entreprise, que vous pouvez être confronté à la réalité de l'exploitation. Vous n'avez pas besoin de reportages à la télévision ou à la radio pour mesurer cette réalité. Et en général, d'ailleurs, l'existence sociale procure des informations auxquelles on fait bien plus confiance que les informations officielles. Donc il faut tenir compte de cela parce que sinon on ne comprendrait pas que des mouvements sociaux qui sont présentés de la manière la plus acrimonieuse, la plus hostile par les médias rencontrent une vraie popularité dans l'opinion. C'est parce que l'information qui est communiquée par la réalité sociale a plus d'importance, plus d'impact que l'information communiquée par les canaux officiels. Et puis je crois que à terme, il est plutôt sain, il est plutôt bénéfique que les gens mettent en cause la réalité de l'information, la qualité de l'information, accueillent ça avec beaucoup de suspicion et que le travail des journalistes, c'est de plus en plus d'encourager le soupçon. Peut-être pour faire pression sur leur rédaction, dans le sens d'une information qui serait meilleure. Mais encore une fois, comme j'ai tendance à ne pas penser que le problème est d'abord un problème moral ou un problème de compétence, mais de plus en plus un problème de structure, je crois que dans une société qu'on définit de plus en plus comme une société de l'information, on ne changera pas l'information si on ne change pas la société.